Viens, Esprit Saint. Nous avons toujours besoin de toi. Tu es le Père des pauvres. Sans toi, nous ne pouvons pas comprendre la parole. Nous ne pouvons pas y entrer, nous ne pouvons pas l'entretenir. Tu es le Maître qui nous conduit dans les profondeurs de la parole, qui est Jésus. Jésus, Yeshua, Dieu sauve. Je voudrais reprendre un peu substantiellement ce dont nous avons parlé hier. Que la foi, c'est existentiellement et essentiellement une adhérence de tout notre être à la parole du Dieu véritable et vrai. Abraham, nous y reviendrons dans un instant, entend une parole. Tu es venu ici parce que tu as entendu une parole, un appel. Et la foi en cette parole, voilà le moyen proportionnel pour être en communion réelle avec Dieu. Tu ne seras pas en communion avec Dieu par des choses extérieures, sensibles, même strictement intellectuelles, non. C'est la foi, la confiance en une parole, l'adhérence à une parole qui t'a précédé. Et voilà pourquoi la foi doit toujours être purifiée de tout ce qui vient l'entacher. Vision, révélation, locution intérieure, Saint Jean de la Croix dit « touche pas à ça ». Pas ça l'essentiel. Certes, le Seigneur peut demander à certaines personnes de manifester ou de faire croître la foi chez les autres. De cette manière, ça peut arriver, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'adhérence à la parole. Et hier, nous avons vu, en relisant les grands textes de saint Paul, comment la parole, depuis toujours, nous avait précédé pour nous faire entrer en communion avec elle et avec le Père, pour que nous puissions dire en vérité dans l'Esprit Saint, « Abba, Père ». C'est la foi qui réalise la communion entre Dieu et l'homme. La foi en la parole. Parce que, n'oublions pas, ce que nous voulons vivre comme grâce dans cette retraite, c'est la joie de la foi. Entre la parole de Dieu vivante et efficace et le cœur de l'homme touché par la parole, il y a la foi qui progressivement dans l'histoire et la chair de l'homme le transforme jusqu'à le rendre semblable à Dieu. Ce qui nous rend semblable à Dieu, c'est la foi, c'est l'adhésion à la parole. La parole, c'est Jésus, la foi, c'est Jésus. Mais déjà dans l'Ancien Testament, il y a un homme qui apparaît, qui est important, il faut toujours y revenir, il s'appelle Abraham. Abraham est le père de tous les croyants. Il est notre père. Et on ne peut pas avancer dans la foi sans faire référence à Abraham. Revenir sur son propre parcours pour voir le nôtre. Et pourquoi la transformation était possible en lui, en Abraham? Pourquoi il est devenu le père des croyants? C'est parce qu'il a fait un cri de vie total à cette parole. Il a misé toute sa vie sur cette parole. Il a tout quitté pour cette parole. Et nous aussi, comme chrétiens, nous sommes appelés à tout quitter pour adhérer au Christ, pour vivre en lui et de lui, comme nous le redit tous les jours la Sainte Eucharistie. Je me nourris de ta chair et de ton sang, ô Christ. J'y adhère de tout mon cœur et c'est ma transformation. Voyez le caractère totalitaire de la foi. Ça prend tout, ça exige tout, mais ça donne tout. Au commencement de la foi, donc, il y a la parole. Et la foi n'a de sens qu'en lien avec la parole, c'est-à-dire n'a de sens, c'est-à-dire de direction et de signification qu'en lien avec la parole. Non pas une parole abstraite, une parole du nouvel âge, une parole impersonnelle, mais une parole intelligente, un logos. Au commencement était le logos, le verbe. Une parole intelligente, personnelle et dynamique. C'est cette parole-là qui est en train de travailler nos cœurs. Pas une parole éthérée, là, dans les airs. Non, non, non. Relation personnelle, j'ai insisté là-dessus hier. Et cette parole est en elle-même fondatrice d'un dessein qui possède une finalité. Il y a un but. Je suis mis en route par la parole en vue de, et nous l'avons vu hier en relisant Éphésiens. Et cette parole me rejoint dans ma corporéité, dans mon vécu, dans mon histoire, dans mon esprit, dans tout mon être. Moi, je vois ça souvent dans le sacrement de réconciliation, comment la parole est efficace jusqu'au plus profond de l'être. Elle épouse. Je vous lance le mot, mais c'est bien ça. Ce sont des épousailles. C'est ça qu'a vécu Abraham. Ce sont des épousailles. Et nous désirons tous ces épousailles. Tous nous sommes appelés à ces épousailles, et notre plus grand désir, puisque notre cœur a été préconstruit pour cela, c'est d'entrer dans ces épousailles avec la parole. Voilà notre vraie joie. Toutes les autres joies sont secondes par rapport à celle-là. C'est la joie de l'alliance, la joie de l'union, que les couples qui s'aiment vraiment peuvent vivre. Ils cognent au seuil du ciel. Ils entrevoient le mystère de la Trinité dans le don mutuel. Abraham, il quitte Ur en Chaldée. C'est parce qu'il avait reçu en son cœur une parole de Dieu, un appel divin, appelé à se déployer dans le temps. Ce n'est pas de la magie. C'est une relation où le Seigneur va nous prendre là où on est rendu pour nous faire cheminer progressivement. Une vie de foi, c'est une vie dans le temps, qui respecte les temps et moments. Et peut-être un des malheurs dans notre vie de foi, c'est le tout-de-suitisme, tout de suite. Se déployer dans le temps. La foi nous met au temps de Dieu. On sort du chronomètre pour entrer dans un autre temps, le temps de Dieu. C'est progressif. Ce geste d'Abraham qui eut foi en cette parole a déclenché à la fois une histoire nouvelle pour lui, une transformation intérieure. Il y a un Abraham avant, un Abraham après. Et de fait, vous souvenez, d'abord Abraham, tu t'appelleras Abraham. Tu t'appelais Simon, tu t'appelles Pierre. Nous avons tous un nom nouveau. Et ce nom nouveau, nous avons à l'approfondir, à le connaître à mesure que nous vivons cette vie de foi. Ce caillou blanc dont il est question dans l'Apocalypse, avec un nom nouveau. C'est une personnalité absolument unique qui va, personnalité spirituelle, qui va émerger à mesure que tu es en contact avec la parole. Tu ne seras plus connu selon la chair, mais selon l'esprit, dans le Verbe. Et tu verras la beauté ineffable que tu es, l'unique que tu es. Et c'est ça que nous révèle la parole. Cheminer avec la parole, c'est entrer peu à peu dans mon identité spirituelle et recevoir ma mission propre. Mais ça suppose une rupture avec l'homme charnel, une rupture avec certaines emprises familiales. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y a une vraie transformation. C'est moi qui vous ai tiré du monde. Le monde vous hait, ne vous comprendra pas. Courage, j'ai vaincu le monde. Jésus sait très bien. C'est du neuf, c'est une créature nouvelle qui surgit. L'acte de foi nous fait entrer dans le monde de Dieu et fait en sorte que on quitte un monde familier où on pouvait trouver sa suffisance, ses repères. Et voilà qu'Abraham a été entraîné dans une alliance assortie de promesses spécifiques. Abraham eut foi en cette parole et cela lui fut compté comme justice. Paul reprend cela dans la lettre aux Romains. C'est là que ça se passe. C'est quoi un homme? C'est quoi la valeur d'un homme selon Dieu? C'est celui qui fait confiance à Dieu. Et les promesses, c'est parce que Dieu veut combler l'homme. Dieu nous a créés pour nous combler. Toi aussi, tu as reçu des promesses. Chacun de nous, nous avons reçu des promesses spécifiques, communautaires, ecclésiales, mais aussi spécifiques. Et ce n'est pas le système du carotte et âne. Je donne une carotte, puis tu vas t'avancer. Non. C'est parce que je veux te combler. Je veux que tu sois le réceptacle de mes bénédictions. Et la foi, confiance, la foi va faire en sorte que le lien va pouvoir se faire et que tu vas pouvoir te dilater, sortir de ton enfermement pour entrer dans la dilatation intérieure qui va te redonner à toi-même. Parce que je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Et tu ne peux pas te nourrir de pierrailles ou de petites nourritures frelatées. Non, je vais te donner un vin décanté, très précieux, le vin des noces, le vin de l'esprit, et une nourriture qui te convienne, qui est rien de moins que le corps de mon Fils. Et qui suis-je? Voilà les promesses que Dieu me fait. Le reste, je vais te le donner par surcroît, mais fais bien attention, le centre, c'est cela. Abraham eut foi en cette parole. Quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ce que tu connais. Fais-moi confiance. Et il allait de campement à campement. Voilà la justice de Dieu. Qu'est-ce que la justice de Dieu? C'est Dieu qui s'engage à te donner tout ce dont tu as besoin pour parvenir à ta finalité. C'est ça la justice de Dieu. Dieu est juste parce qu'il t'a vu par avance, afin de te combler, et il va tout te donner ce dont tu as besoin pour parvenir à ta fin. Voilà un Dieu juste. Pas Dieu matraque qui est l'homme. Il est juste. Non. Je vais t'ajuster à moi en te donnant ce qu'il faut pour t'ajuster à moi, parce que par toi-même, ce n'est pas possible. L'adhérence intime à cette parole entendue par Abraham, envers et contre tout, a établi entre Dieu et Abraham une communion invisible, immédiate et effective entre le Dieu qui parlait à son cœur et Abraham qui l'écoutait intérieurement en interaction avec les événements de sa vie. La foi nous rend à l'écoute. Dieu parle. Tellement de nos contemporains disent « on n'entend pas Dieu ». Si tu vis dans la foi, et je reviendrai tout à l'heure, peu à peu, tu commences à faire des relectures des événements. Tu commences à voir des liens. Le recueillement, l'intériorité te permet de faire des associations. Et c'est exactement le mot qui est utilisé en Saint-Luc lorsqu'il est question de la Vierge Marie qui méditait toutes ces choses dans son cœur. Elle faisait des associations. Elle faisait des associations entre ce qu'elle avait lu, ce qu'elle voyait, ce qu'elle avait vu, et elle méditait ces choses. Et elle voyait bien qu'il y avait un secret dessein qui était en train de se déployer. La foi va nous permettre, à mesure qu'elle épouse notre être, la parole, à mesure qu'elle épouse notre être, notre foi va de plus en plus nous éclairer et nous faire lire les événements, les circonstances en Dieu. Parfois pas sur le moment, mais après un certain temps. Ça, vous en avez tous fait l'expérience, j'en suis convaincu. Par l'Écriture et l'Histoire sainte, nous avons accès aux fruits de cette communion fondée sur la foi d'Abraham. Fécondité inattendue comme Abraham, Isaac, il n'était pas prévu, lui. C'est Dieu qui l'a donné. Le sourire de Dieu, hein? Isaac, c'est ça que ça veut dire. Le sourire de Dieu, c'est beau. C'est beau, c'est fin. Mais à travers Isaac, c'est toute une postérité, c'est de tous les croyants. Fécondité qui s'étend à tous les croyants qui reconnaissent en Abraham le Père dans la foi. Donc l'histoire d'Abraham nous montre que la parole qui lui avait été adressée au commencement avait bel et bien une intention puis un but défini. quand Jésus t'appelle, quand Dieu t'appelle, il sait ce qu'il fait. Il y a un but défini. Mais il veut que ce soit une relation fondée dans l'amour, dans la foi, dans l'espérance, dans la vérité de l'Alliance. Et c'est ça qui est si grand. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit que le péché originel, fondamentalement, c'est ceci. C'est Adam qui a laissé mourir dans son cœur la confiance. Moi, quand la Sainte Église me dit cela, appuyée sur les pères de l'Église, elle a réfléchi, c'est assez, c'est suffisant. Effectivement, j'ai juste à regarder dans mon cœur et c'est ça que je vois. Un jour, j'ai laissé mourir la confiance dans mon cœur. Et là, le Seigneur, par sa parole, veut raviver cette confiance, cette foi-confiance, cette adhérence, cette communion avec mon bien-aimé. Donc, Dieu a un but. Il y a une intention avec Abraham. Ça le dépasse, Abraham, comme nous. Ça le dépasse. Ce que Dieu veut faire avec nous, ça nous dépasse. Et saint Paul le dit très clairement. Celui qui a le pouvoir d'accomplir en vous, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer et concevoir. C'est ça que donne la foi. Mais si tu arrives avec tes... Ben moi, je voudrais ça. Le Seigneur, il dit, oui, mais moi, je voudrais ça. Oui, mais ça. Non, moi, c'est ça. Nous n'avons pas conscience de la grandeur de l'âme humaine, qui n'est pas faite pour des petits plaisirs passagers, simplement. Eh non. Nous sommes faits pour un infini. Rien de fini peut combler le cœur. Et Abraham, à mesure qu'il avançait, en faisait l'expérience. Creusé, pas d'enfant, femme stérile, campement en campement, comme il devait s'abandonner. Mais à mesure qu'il écoutait cette parole, il en fut, comme dit saint Jean de la Croix, enamouré. Il en est tombé amoureux. Plus on lit l'histoire d'Abraham, on voit que cet homme est éperdu d'amour envers cette parole. Et cette parole, c'est le Christ. Avant qu'Abraham soit, je suis, dit Jésus. Et Jésus dit, Abraham a vu mon jour. Bien sûr qu'Abraham a vu le jour du Christ, puisqu'il a vécu intimement avec la parole et qu'il est devenu l'ami de Dieu. L'histoire d'Abraham nous montre que cette parole avait une intention et un but définis. Intention et but qui ne s'arrêtaient pas à lui exclusivement. Cela signifie que la foi en un Dieu réellement agissant n'est possible qu'en adhérant personnellement à une parole par laquelle Dieu dit ce qu'il fait. D'où l'importance de l'oraison et de la prière. Parce que la parole de Dieu, elle agit substantiellement dans notre être. Une parole substantielle, elle accomplit ce qu'elle dit. Et quand on a foi en la parole de Dieu, on laisse cette parole accomplir en nous. Selon ce que Dieu veut dans l'alliance que nous vivons avec lui, il veut nous combler. Et que dit-il? Que dit Dieu à Abraham? Je ferai de toi une grande nation, sois parfait et marche en ma présence. Sois une bénédiction. Ça s'applique à chacun de nous. Marche en ma présence. Sentez-vous que dans la foi, il y a toujours une marche. Nous allons lire dans saint Jean, « Celui qui me suit aura la lumière de la vie. » Si tu es un parfait sédentaire, très difficile de vivre de foi. Ne pensez pas que dans un monastère, on est parfait sédentaire. Tu marches au monastère. Je le sais. Il faut que tu marches. Chante et marche, dit Augustin. Il faut marcher. On avance, on marche. Mais si tu veux t'installer, ça c'est la tentation de l'idolâtrie, si tu veux t'installer, peu à peu tu t'enquistes et tu t'enfermes. Dans la dynamique de la foi, il y a une marche, une démarche. On avance. C'est pour ça qu'on parle tellement à notre époque de cheminement. C'est très réaliste, c'est très vrai. Marche en ma présence. Et là, nous pensons au peuple d'Israël qui sort d'Égypte et qui marche au désert, même s'il tourne en rond par manque de foi. Mais il le suit. Et voilà que Dieu précède avec la nuée lumineuse, précède Israël comme nous. Dieu nous précède par la foi. Sois parfait et marche en ma présence, sois une bénédiction. Par sa parole, Dieu opère en Abraham ce qu'il profère par le moyen de sa foi. Et déjà, Abraham reçoit les prémices de son adhérence à la parole à travers des figures, des signes et diverses actualisations. La même chose dans nos vies. Pensez à Melchisédek qui vient vers Abraham. Melchisédek avec du pain et du vin. Ah, tiens, Melchisédek, grand prêtre. La lettre aux Hébreux relie cet événement. C'était le Christ. Et le pain et le vin, c'était l'Eucharistie. Et dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Israël, il y aura toujours ces figures qui pointent vers celui qui est la foi, celui qui est la parole. Sentez-vous la joie qui veut monter de notre cœur? Beaucoup de saints et de justes ont voulu voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez. Ça s'applique à nous. Nous pouvons manger, boire le Christ, lui parler cœur à cœur. Abraham l'a vu dans les figures. C'est pour ça aussi qu'il est si grand. Comme il le désirait, le Christ. Et déjà par la foi, il était épousé par lui. Il a vu mon jour, dit Jésus. L'histoire d'Abraham nous invite à prendre conscience que croire en Dieu, accéder à la foi, c'est découvrir que Dieu est présent dans notre propre existence, non comme un observateur étranger, mais bien comme le premier partenaire qui s'y engage totalement en y mettant tout son amour. C'est totalitaire. Cherchez le royaume des cieux et sa justice, et le reste va vous être donné par surcroît, dit Jésus. Mais c'est la même chose pour Abraham. Et on le voit quand on lit le cycle d'Abraham, Genèse 12 et suivant, il a manqué de rien. Mais il avait les yeux fixés sur l'invisible. Et il est monté dans l'invisible, d'étape en étape, de campement en campement. Dieu s'engage. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la foi, c'est un Dieu qui s'engage au plus profond de son être. Et nous voyons à mesure que l'économie du salut avance qu'il veut nous donner rien de moins que son Fils. Dieu a donc parlé à Abraham. Dieu n'a cessé ensuite de parler à son peuple. Et en ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé de façon définitive et complète en son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui aussi il a fait les siècles. Vous avez reconnu le premier chapitre, premier verset de la lettre aux Hébreux. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Là, nous le voyons. Voici l'époux qui vient, le voici enfin, celui qui a parlé par Abraham, celui qui a parlé par les prophètes, celui qui a parlé par les sages, celui qui n'a cessé de parler, le voilà. La joie de la foi, c'est voir le Christ. Et c'est ça, nous, notre privilège. C'est de pouvoir le rencontrer. Le voir dans le mystère, par la foi. Ici, nous sommes mis directement en contact avec celui qui récapitule en lui-même la parole qui est à l'origine de la création et qui fut adressée à Abraham, à Moïse, à Israël et aux prophètes. Alors sentez-vous que, depuis le début, depuis la parole créatrice, la parole Abraham, il y a unicité de la parole, il y a une parole. Toutes les vraies paroles découlent de la parole. Ça aussi, il faut le voir, là. Nous sommes pris dans un monde où les informations circulent, un flot de paroles partout. Mais cette parole est une. Le Père ne profère qu'une parole et c'est son Fils bien-aimé. Et voilà pourquoi des hommes et des femmes comme François d'Assise et Claire d'Assise ont misé complètement sur cette parole, comme Abraham. Ils sont devenus pauvres pour être enrichis de cette unique parole. Puissions-nous commencer à vivre de cet esprit pendant cette retraite? Il y a des choses qui sont secondaires, et des choses qui sont primordiales. Cette parole unique qui fait vivre, qui t'établit sur le roc, qui te donne ton identité et ta mission. Il faut souligner fortement ici que la parole qui est une, dès le commencement, et qui a créé tout ce qui est, et qui en plus de s'adresser aux prophètes, s'est manifestée aussi comme sagesse, comme je viens de le dire, que cette parole n'a cessé de se déployer progressivement, poursuivant un but bien déterminé que toute l'histoire d'Israël préfigurait. Et ce but, c'était l'entrée définitive du peuple de Dieu dans une alliance nouvelle et éternelle que nous célébrons à chaque Eucharistie. Une alliance nouvelle et éternelle, annoncée d'avance. Jérémie 31, Ézéchiel 37, des textes fondamentaux qui parlent d'une nouvelle alliance. Il a parlé jadis au Père par les prophètes, mais Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par ce Fils. J'ai résumé un peu ce que j'ai dit hier, mais en le condensant, pour bien vous faire voir que là, on entre dans les noces. Et comme je vous ai dit hier, chacun est destiné à des noces avec Dieu. Personne n'est exclu de ces noces. C'est seulement à ce prix que la vraie joie et l'espérance vont surgir de ton cœur. Parce que tu es fait pour grand. Nous sommes faits pour la grandeur. Nous nous méprenons souvent sur cette grandeur. Mais en fait, c'est cette grandeur. Que la parole de Dieu elle-même, le Fils unique de Dieu, vienne habiter en toi, t'épouser, faire de toi une créature nouvelle, afin que tu deviennes source pour une multitude. Voilà donc l'objet de la foi en sa substance. Voilà présenté à nos yeux intérieurs ce qui est au cœur de la foi et qui était là dès le commencement, avec Abraham, même dans la création, et qui s'est déployé de façon originale tout au long des siècles à travers Abraham, le peuple élu, les prophètes, les sages d'Israël, et bien des vicissitudes, bien des procès d'alliance, bien des difficultés, bien des ruptures. C'est ton histoire. Sentez-vous là, on peut relire l'Ancien Testament dans cette lumière, comme faisaient les pères de l'Église. La foi s'identifie avec ce Fils. La foi, c'est Jésus. Jésus, c'est la joie. Et c'est cette joie dont nous avons soif. Faim et soif de cette vraie joie. La seule joie imprenable, la seule joie profonde, la seule joie qui va demeurer. Voilà celui qui est en lui-même, par lui-même, la porte de la foi. L'objet de la foi. La foi s'identifie avec l'accueil de ce Fils qui est en personne la parole de Dieu qui était dès le commencement et qui nous est aujourd'hui, tous les jours, livré par le Père afin que nous soyons rendus capables de vivre une communion réelle, intégrale et vivifiante avec lui dans tous les instants de notre vie. Certes, il y a les obscurités de la foi. Jean de la Croix en a parlé, c'est mon saint patron. Il m'en a fait vivre. Et vous aussi. Mais ces nuits de la foi nous permettent de creuser, de laisser notre cœur se creuser pour accueillir davantage. Dieu ne martyrise pas ses créatures. Il est mystère. Et parce qu'il est lumière, quand nous vivons ce que nous appelons les ténèbres divines, c'est parce qu'il y a trop de lumière. Et nous ne pouvons pas le supporter. Alors nous vivons cela comme une obscurité, comme un abandon. Et en vérité, il y a un excès de lumière. Et là, nos sens intérieurs se transforment progressivement pour qu'on s'habitue à la lumière. Comme lorsqu'on est plongé dans l'obscurité, on dit c'est noir. Attendez une minute, deux minutes, ah, on commence à voir un peu plus de lumière. Or, quand on a la foi, on participe déjà au bien invisible. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Le Christ L'époux de l'Église est au milieu de vous et on est épousé par lui. La foi, c'est posséder déjà la substance des biens espérés. Toute la tradition de l'Église, depuis spécialement la lettre aux Hébreux, mais le dit explicitement. La foi attire dès maintenant l'avenir, l'éternité dans le présent. La foi opère une attraction. C'est pour ça qu'un groupe de prières avec une foi brûlante amène déjà les biens qu'on appelle eschatologiques, les biens du monde à venir, déjà au milieu de nous. Dans une chair fragile, nous commençons à posséder déjà les biens d'éternité. Et là, il ne s'agit pas de les posséder, parce que le royaume des cieux, c'est le royaume de l'impossédable. On ne peut pas posséder ces biens comme on possède les choses. Il faut être pauvre. Quand on entre dans ce monde de foi, c'est le monde de l'impossédable. Ce n'est pas le monde de la propriété. Ni possession, comparaison, domination, avoir raison. On est dans un autre monde. Le monde de la gratuité, de l'impossédable. Le monde de l'enfance. Quelque chose de virginal, de très beau. Et nous avons tous soif de sang. Tous, on aimerait bien retrouver, non? Cela, dans nos profondeurs. Si je pouvais retrouver l'enfant intérieur, quand je me jetais dans les bras de mon papa. Et c'est ça la lente remontée, pour savoir au fond, au final, que tout était gratuit. C'est pour ça que le huitième péché capital, c'est l'ingratitude, la non-gratuité. Soyez dans l'action de grâce. Ceci développe en nous la soif du royaume et cela décuple la foi. Les choses ne fonctionnent pas comme tu veux, c'est difficile. La puissance de la louange, comme le livre de Merlin Carruthers il y a plusieurs années, la puissance de la louange, ça a fait un tabac ce livre-là, mais ça disait ceci, tu es dans une situation impossible, loue. Rends grâce. C'est pas être sot. C'est de croire que Dieu peut, dans une incapacité, faire du neuf. Il peut, à travers un mur, passer à travers, comme il l'a fait lors, après la résurrection. Les apôtres étaient tout apeurés, affirmés, et il vint au milieu d'eux. La paix soit avec vous. C'est extraordinaire, ça. La paix soit avec vous. Ils sont emmurés, enfermés, apeurés, écrasés. La paix soit avec vous. Je passe à travers les murs. La puissance de la foi qui attire dès maintenant l'avenir, l'éternité dans le présent. La foi nous donne dès aujourd'hui la vie éternelle. Par la foi, cette vie éternelle prend réellement naissance en nous, indissociable de ce Fils auquel on adhère et qui est éternellement engendré par le Père. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Eh bien, nous entrons dans cet engendrement. Sentez-vous encore la dynamique? Il renouvelle comme l'aigle ma jeunesse, continuellement. Voilà pourquoi les gens de foi, dans notre entourage, ils ont un ressort. Ils repartent. C'est comme si la fatalité n'avait aucune emprise sur eux. Vous avez certainement entendu de ces témoignages. C'est parce que c'est l'éternité qui est attirée dans le présent, dans un cœur de pauvre qui accueille l'inattendu de Dieu. Et Dieu veut faire cela. Mais en même temps, il veut nous dégager, nous libérer. Foi et partage. J'aime bien foi et partage. Je ne connaissais pas, non, mais foi et partage, c'est ça. La vraie foi, c'est le partage. Ça circule, comme dans la Trinité, comme entre le Fils et son épouse, l'Église. Ça circule. Quand ça circule, on commence à se dilater, on retrouve son cœur d'enfant, on reconnaît le frère, on voit la beauté dans l'autre. C'est une autre lumière qui me fait voir cela. C'est une lumière trinitaire. C'est la lumière du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Le baptême n'est-il pas une illumination? Baptizo, c'est être baptisé, mais c'est une illumination. J'entre dans la lumière. Et comme nous voudrions demeurer dans cette lumière, mais il faut que nos ongles soient coupés et notre bec aussi. Il faut que peu à peu nous soyons pauvres. La pauvreté, le pauvre seul peut accueillir d'un cœur brûlé d'attention, les yeux tournés vers ta lumière. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu. C'est Jésus qui parle au Père. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus Christos. Loin. O-I-N-T. Celui qui a reçu l'onction. Celui qui a reçu l'onction totale du Père. Nous le recevons. Et dans la foi, nous y adhérons. Et nous sommes illuminés. Et nous sommes épousés de plus en plus pour ressembler à celui qui vient vers nous. Christianus alter Christus. Le chrétien, c'est un autre Christ. C'est un autre Christ. Si nous étions capables de voir dans l'autre un autre Christ, oh, commencer à le voir, à prendre le temps de regarder un autre Christ qui a peut-être été défiguré, blessé par la vie, mais c'est ce qu'il est dans son mystère profond. C'est la foi qui permet de voir cela. Un homme comme Jean Vanier l'a perçu, et tant d'autres, Mère Teresa et tant d'autres. Et nous, nous devrions être dans un monde d'exclusion où on jauge les personnes à partir de leur compte en banque, puis de leur pouvoir, puis de leur look, voir une autre profondeur. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la joie de la foi. Ça nous met en relation. On n'exclut pas, on inclut. J'aime mon Christ qui inclut tout. J'aime mon Christ qui inclut tout. Et au jour de sa chair, au milieu des pharisiens et des sadducéens, j'aime mon Christ qui descend chez Zachée. J'aime mon Christ qui va vers la femme adultère. Personne ne te condamne, moi non plus. Parce que tu inclus. Il t'appelle prostituée, moi je t'appelle épouse. Mais c'est puissant ici. C'est intéressant, non? C'est un regard neuf. C'est la libération. C'est la libération. Cette connaissance par la foi, Paul en parle par expérience dans sa lettre aux Éphésiens. Que le Père daigne, selon la richesse de sa gloire. Voilà un homme, c'est de quoi il parle, hein, Paul. Que le Père daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. On sent que Paul, là, il y a une grâce particulière pour visualiser, exprimer ce qu'il le vit. Ainsi, vous recevrez, encore une fois, le don de la grâce, vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance et vous entrerez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. Un des textes extraordinaires d'Éphésiens qui nous montre, voilà, l'homme saisi par le royaume. Et tu es fait pour cela. Paul ne parle pas ici de façon abstraite et éthérée, mais il exprime précisément quelque chose de la communion au bien espéré dont il a été question en Hébreux 1. La condition de cette expérience étant que le Christ habite en nos cœurs par la foi. Excusez-moi. J'étais beau sang, j'aurais dit cœur. Et cette inhabitation du Christ, parole de Dieu en nos cœurs, constitue le principe actif de ce qu'on peut appeler la foi vivante. C'est dans ton cœur. Et la retraite que nous faisons actuellement, c'est pour que ça descende dans le cœur. Mais on sait très bien, et c'est là qu'il faut être Et déjà j'en parle parce qu'on s'en va vers le sacrement de réconciliation. De grâce, ne passez pas à côté de cette grâce. C'est un des désastres actuellement en notre Église, c'est cet éloignement de ce sacrement. Rapprochez-vous de ce sacrement extraordinaire pour justement que le cœur soit libéré. Il y en a qui tournent en rond depuis des années, des années, des années. Toutes sortes d'absolutions à gauche, mais ils n'ont pas eu la véritable absolution dans ce sacrement, dans une vraie rencontre avec le Christ miséricordieux, qui lui fait toutes choses nouvelles. Approchez-vous de ce sacrement. Moi, je suis convaincu que seulement votre groupe ici, si chacun prend la décision, une fois par mois, de se confesser, il y a quelque chose qui va changer dans la paroisse. Cette purification de ton cœur va t'amener à l'adoration. L'adoration va te tourner vers les autres. Et en revenant chez toi, tu vas vouloir de plus en plus purifier ton cœur. Tu vas retrouver le Seigneur dans l'Eucharistie, dans le sacrement du pardon. Et là, il y a du neuf qui va surgir de ta vie. Et lorsque elle devient une disposition constante de l'esprit, cette foi vivante, elle permet à la vie éternelle de prendre naissance en nous et de croître de façon indéfinie. Nous sommes déjà dans le royaume. L'eschatologie est commencée, comme disent les théologiens. Ainsi, parce que les biens que procure la foi sont déjà présents en nous, il y a une joie. Ça ne peut pas être une joie factice, c'est une joie véritable. Alors, la présence de ce qui se réalisera pleinement en nous lors de la vision béatifique crée aussi une forme de certitude. La foi, c'est une certitude, ce n'est pas un doute, c'est une certitude. J'adhère aux biens qui sont éternels. Thérèse l'Enfant Jésus, à la fin de sa vie, au milieu de grandes souffrances, dit « Je ne sais pas ce que je peux recevoir de plus au ciel que je n'ai déjà. » Elle savait très bien qu'il souffrait, que c'était terrible, mais en dedans d'elle, le royaume était bien présent. C'est bien. De l'éternité sont déjà perceptibles par le cœur qui vit de foi. Et ce, par l'effet conjugué des vertus théologales, de foi, d'espérance et de charité, qui sont toujours en croissance, et par le moyen aussi de ce qu'on appelle les sens spirituels. De même que nous avons des sens humains, physiques, nous avons aussi des sens spirituels. Je termine avec mon père spirituel. Charles de Foucault. Pour ceux qui expérimentent cet impact de la foi dans leur vie, nous pouvons parler d'une véritable entrée dans des perspectives tout à fait nouvelles. Tu vas commencer à voir le monde différemment. On ne juge pas comme le monde. On ne discerne pas comme le monde, mais autrement. Voici les paroles d'un maître spirituel, Charles de Foucault. Ainsi, la foi éclaire tout d'une lumière nouvelle, autre que la lumière des sens. Celui qui a la foi a l'âme pleine de pensées nouvelles, de goûts nouveaux, de jugements nouveaux. Ce sont des horizons nouveaux qui s'ouvrent devant lui, horizons merveilleux qui sont éclairés d'une lumière céleste et beaux de la beauté divine. Il parle d'expérience, là. Enveloppé de ces vérités toutes nouvelles, dont le monde ne se doute pas, celui qui à la fois commence nécessairement une vie nouvelle, opposée au monde, à qui ses actes semblent une folie. Le monde est dans les ténèbres, dans une nuit profonde. L'homme de foi est plein de lumière. Le chemin lumineux où il marche n'apparaît pas aux yeux des hommes. Il leur semble vouloir marcher dans le vide comme un fou. Là, on sent un homme qui il est au désert, il n'y a pas de disciples, ça fait des années qu'il veut en avoir. Ça ne fonctionne pas, il se demande qu'est-ce qui se passe, il se confie à Dieu, et voilà ce qu'il écrit. Il vient de quitter son monastère, ici on est en 1897, il est à Nazareth, puis il médite sur sa vie de foi. Frères et sœurs, puissions-nous, par grâce, entrer dans cette vie de foi un peu plus. Des épousailles, on va en parler davantage ce soir. et vu que nous nous dirigeons vers le sacrement du pardon. Pour bien le vivre, et je trouve que Fouet partage une idée géniale ici, hein, c'est d'entrer maintenant dans le lavement des pieds. Osez y entrer, frères et sœurs, c'est une grâce. Notre Seigneur l'a fait lui-même. Et la foi, c'est d'imiter notre Seigneur, non? C'est le meilleur argument. Si c'était quelque chose d'humain, non. Au soir de sa passion, hein, la veille de sa passion, il les aima jusqu'à l'extrême. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé. Il a mis un tablier, puis il a dit, « Pierre, je te lave les pieds. » Oh non, Seigneur! Il y en a beaucoup de non, là, c'est sûr. Non, Seigneur! Pas moi. Moi? Toi? Me laver les pieds? Non! Non! Pierre, si tu n'entres pas, tu n'auras pas de part avec moi. Oh, oh, excuse-moi. Les pieds, la tête, les oreilles. Mais comprenez-vous, ça se peut que tu aies la même réaction. Mais je nous invite à entrer, précisément, dans ce mystère. Parce que c'est une parole de Dieu. Ah, ah, c'est une parole de Dieu. Faut pas jouer au fin-fin, hein? C'est bien beau, John, parle, mais il faut un moment de... Ah bon, ah tiens, ah ok. Il a fait ça, le Seigneur. Ah bon. Et là, c'est ça qui va se passer. Là. Il va y avoir une pause, et ensuite, on va entrer dans cette démarche. Entrez-y de plein pied, c'est quoi de dire. Hein? Entrez-y de plein pied, et faites en sorte que, voilà, Seigneur, moi, ce que je veux, là, c'est te rencontrer. Là, c'est ça qu'il faut avoir dans l'esprit. C'est pas, là, qu'est-ce qu'il va penser. Seigneur, moi, je veux te rencontrer. Tu l'as fait. Je veux entrer dans les sentiments qui sont dans les siens, dans les tiens. Je veux laver les pieds et je veux me laisser laver les pieds. Ce qui est peut-être essentiel, le plus essentiel. Et donc, on va aller à la pause café. Et ensuite, ceux qui sont responsables des groupes vont s'avancer. Et je vais bénir hein, le petit lampion qui va vous accompagner avec la parole de Dieu dans les groupes où vous serez. Je vous invite à y entrer avec un esprit de foi. Et là, j'invoque l'Esprit Saint. Viens, Seigneur Saint-Esprit. Je vous invite à vous mettre à genoux, ceux qui peuvent, ceux qui peuvent. Seigneur Saint-Esprit, nous voici dans le désir d'écouter la parole. Cette parole très concrète, visuelle, qu'a été le lavement des pieds. Nous sommes pauvres, nous avons plein de précautions et de murs, plein de sclérose à l'intérieur, mais nous sommes de bonne volonté. Et nous voulons entrer dans ce mystère du lavement des pieds. Nous ne comprendrons pas tout aujourd'hui, mais nous voulons y entrer avec Marie, qui fort probablement, selon certains, était présente au soir du Jeudi Saint, dans la chambre haute. Avec toi, Marie, toi la toute humble, la toute pure, nous voulons entrer dans ce mystère du lavement des pieds pour recevoir en même temps le commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous voulons l'accueillir comme un don. Nous voulons aussi accueillir l'Eucharistie. Nous voulons aussi accueillir le sacerdoce, tous les dons qui sont liés à ce Jeudi Saint, à ce mystère du lavement des pieds. Viens, Marie, alors que nous t'invoquons. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du perpétuel secours, Notre-Dame de tous les services, Notre-Dame de la garde.